soir. On va terminer ce cycle de cours en faisant un petit peu de théorie sur les révolutions scientifiques et puis en examinant une supposée crise. C'est comme ça qu'on a appelé ce dernier cours et qui serait la supposée crise de la théorie de l'évolution dont on a pas mal parlé la dernière fois. Et dans la partie sur la théorie sur les révolutions scientifiques, on va faire un petit peu du lien entre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire à la première séance, le catastrophisme et les catastrophes dans l'histoire de la vie, à la deuxième, et puis les théories sur l'évolution, sur le gradualisme ou les équilibres ponctués. Et à la deuxième séance, les révolutions scientifiques. Tout cela n'a peut-être pas beaucoup de rapport, mais en fait, si. Et pour voir ce rapport, je vais vous parler de Thomas Kuhn, ou plutôt d'un de ses livres, son livre le plus connu qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques ». Alors, Kuhn, c'est un physicien américain qui s'est assez tôt mis à l'histoire des sciences, puis à la philosophie des sciences, à l'épistémologie, et qui a écrit ce livre, La structure des révolutions scientifiques, en 1962, et qui donne une théorie de l'évolution de la science. Alors, il y a différentes visions qu'on peut avoir de l'histoire des sciences. Les scientifiques eux-mêmes, qui font pas d'histoire, ont l'habitude d'avoir une vision assez portée sur les connaissances actuelles, enfin, qui est basée sur les connaissances actuelles, où on recherche dans l'histoire les découvreurs des connaissances actuelles. Alors, on parcelle par parcelle des connaissances actuelles, on leur donne une date et un nom pour savoir qui c'est qui les a découverts, et on a comme ça une histoire qui est linéairement ordonnée dans le temps, avec des héros et des dates. Comme on le disait la dernière fois, ça donne Darwin 1859 pour l'évolution et la sélection naturelle. Ça donne par exemple Mendel 1865 pour les théories de l'hérédité. Et puis voilà, on a comme ça une sorte de progression linéaire de la science. À l'opposé, il y a une vision qui est complètement historique, et qui essaie de se débarrasser, quand on fait l'histoire, de toutes les connaissances actuelles. Alors c'est complètement opposé, évidemment, parce que l'autre était basé sur les connaissances actuelles, mais quand on fait l'histoire, on essaie de ne pas faire d'anachronisme, et du coup, de ne pas mettre dans une période historique ce qu'on sait actuellement, d'essayer d'oublier ce qu'on sait, de se baser à une époque, et de faire de l'histoire de la science qui se faisait à cette époque-là, sans même s'autoriser à dire que tel scientifique était dans l'erreur quand il faisait ça, puisque sa connaissance a été réfutée par la suite. Mais comme de dire qu'elle a été réfutée par la suite, quand on fait de l'histoire, c'est un anachronisme, c'est pas la vision historique. Et puis il y a une espèce de vision intermédiaire qui essaie de faire de l'histoire des sciences, mais en même temps d'avoir des lois de l'évolution de l'histoire des sciences, parce que on parle de science quand même, des choses qui établissent des lois de la nature, on aimerait bien faire de l'histoire en établissant des lois, en essayant d'interpréter, en essayant de comprendre, et pas seulement de décrire ce qui s'est passé. Donc d'avoir une vision sur le long terme, de s'autoriser à parler d'erreurs scientifiques, de s'autoriser et en parlant d'erreurs, de s'autoriser à avoir une vision de l'évolution des sciences. Et alors c'est ça que font les épistémologues comme Popper, dont on avait parlé il y a deux ans. Alors il y a deux ans, on parlait des erreurs scientifiques, et la théorie de Popper, c'est une théorie qui va bien avec les erreurs scientifiques. C'était à l'occasion du thème de l'université populaire sur les erreurs, justement. C'était le thème, c'est même pas vrai, et Voilà la théorie de Popper qui est sur le critère pour détecter ce qui est une science et ce qui n'est pas, c'est la réfutabilité, donc qu'on puisse réfuter une théorie, ce qui avait un rapport avec les erreurs justement. Et puis là, puisque le thème de l'évolution de l'université populaire, c'est la crise, on va parler d'un autre épistémologue, un autre théoricien, c'est Kuhn, et qui lui théorise l'évolution des sciences comme une succession de crises et de révolutions. Alors, ça tombe bien, Kuhn et Popper, c'est sans doute les théoriciens de l'histoire des sciences les plus célèbres. Et Kuhn invente dans son livre La structure des révolutions scientifiques l'idée que la science a besoin de ce qu'il appelle un paradigme. Le paradigme, c'est une découverte qui est suffisamment remarquable pour attirer des gens à sa suite et les faire travailler dans le cadre de cette découverte, et donc qui est suffisamment vaste pour fournir à beaucoup de chercheurs des problèmes à résoudre. Donc qui ne résout pas forcément elle-même tous les problèmes, d'ailleurs qui ne doit pas résoudre tous les problèmes, qui doit avoir suffisamment d'ouverture de problèmes pour permettre aux gens de travailler. Et ça, c'est un paradigme, c'est-à-dire les gens qui travaillent à partir d'une découverte. Les gens se mettent à travailler et à résoudre des problèmes dans le cadre de cette découverte-là. Alors, par exemple, Kuhn, c'est un physicien, il donne des exemples en physique. Par exemple, la physique d'Aristote, ça a été un paradigme parce que tout le monde travaillait sur la physique d'Aristote jusqu'à la fin du Moyen-Âge. La mécanique de Newton, ça a été un paradigme. L'électricité de Franklin, la chimie de Lavoisier, la géologie de Liels, voilà, il cite ces paradigmes-là, qui sont assez proches de soit la chimie, soit de la physique. Quand il cite ces exemples, alors il parle vraiment pas beaucoup de biologie, sauf à la fin, et je vais vous expliquer dans quel contexte. Mais on peut essayer d'interpréter ça en termes de biologie. Alors, dans ce cas-là, l'évolution, c'est un paradigme. Je pense que même si c'est pas cité dans le livre, on peut dire ça sans trop de risques. Les théories de l'hérédité aussi, c'est un paradigme. Après, savoir à qui on attribue ces théories, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce genre de vision, on répond pas forcément aux questions que je vous avais dit, qui était la vision scientifique de l'histoire des sciences, c'est-à-dire qui c'est qui a inventé tel phénomène, parce que qui c'est qui a découvert tel phénomène, à quelle date, c'est une question qui n'a pas forcément beaucoup de sens, parce que les paradigmes peuvent s'établir progressivement. On peut dire avant on travaillait pas dans ce cadre-là et après on travaille dans ce cadre-là, mais l'établissement d'un paradigme peut durer mettons 50 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il pense que l'histoire des sciences est graduelle, progressive et régulière. Au contraire, il pense qu'il y a des discontinuités, que l'établissement d'un paradigme représente une révolution scientifique, que entre le début et la fin de la révolution scientifique, il s'est passé plus de choses en sciences qu'entre deux révolutions scientifiques, alors qu'entre deux révolutions scientifiques, il y a beaucoup plus de temps, il peut se passer plusieurs siècles. Donc il y a des discontinuités, même si un paradigme peut mettre longtemps à s'établir, et pour faire le lien avec ce que je vous avais raconté la dernière fois de l'établissement du paradigme de l'évolution, on pourrait faire commencer ça au début du 19e siècle, et puis la révolution est accomplie après Darwin, à la fin du 19e siècle. Alors, au passage, ça donne un critère de démarcation entre ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science, parce que, puisque la science a besoin d'un paradigme, il y a tout un tas d'activités qui n'entrent pas dans ce cadre-là. Ça veut dire que, hormis peut-être les maths et l'astronomie, la science est assez récente parce qu'il faut tout un ensemble de personnes qui travaillent sur les mêmes bases. Ça veut dire que si les gens travaillent de façon isolée avec des bases différentes et que chacun donne sa petite théorie, c'est pas de la science. Dans ce cadre-là, hein, c'est. Ce qui veut dire aussi que dans ce que je vous racontais la dernière fois, par exemple, je vous avais dit il y a des précurseurs à la sélection naturelle. Il y avait Patrick Matthews qui avait donné l'idée dans un article de la sélection naturelle. Il n'a pas créé de paradigme. Personne n'a travaillé à partir de son œuvre sur la sélection naturelle. Alors que, à partir de Darwin, les gens ont commencé à travailler là-dessus. Donc ça donne un critère de démarcation. Quand j'avais essayé de brouiller les pistes sur la révolution darwinienne, ça remet les choses en place. Là, on peut faire la différence entre quelqu'un qui écrit une idée et qui a aucun successeur et personne ne travaille dessus, et puis quelqu'un qui ouvre un champ de recherche qui est moissonné par des nombreux chercheurs. Après l'établissement d'un paradigme, raconte Thomas Kuhn, la science se fait avec ce qu'il appelle l'évolution de la science normale, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le paradigme, mais on résout les problèmes qui sont ouverts par ce paradigme. Et il fait l'analogie entre ces problèmes-là et la résolution d'un puzzle. C'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont parfois très difficiles, qui demandent beaucoup d'ingéniosité pour les résoudre, mais c'est des problèmes dont on sait à l'avance qu'ils ont une solution, puisque c'est le paradigme qui nous dit qu'ils ont une solution. Alors, et on sait quelle forme a la solution. Par contre, on ne sait pas quel chemin il faut prendre pour arriver à la solution, et c'est ce chemin-là qu'il faut inventer dans la science normale. Dans la science normale, de temps en temps, il y a ce qu'il appelle des anomalies. Alors, j'ai donné un exemple aussi qui n'est pas dans le livre, mais que j'oriente vers la biologie parce que c'est de ça dont on va plutôt parler. Donc, Kuhn donne tout un tas d'exemples en physique, et puis, bon voilà, je peux m'amuser à interpréter ça, et puis, pour faire le lien avec notre cours, à parler d'évolution. Alors, Darwin, enfin, bon, le paradigme qui s'établit au XIXe siècle sur l'évolution permet, par exemple, de faire l'histoire du vivant. Darwin lui-même ne la fait pas, l'histoire du vivant. Il dit simplement, voilà, je propose ce mécanisme-là de transformation des espèces, et ce mécanisme peut permettre d'expliquer toute l'évolution du vivant à partir d'un ancêtre commun jusqu'à la biodiversité qu'on voit aujourd'hui. Par contre, il n'y a pas d'histoire là-dedans. On ne sait pas comment ça s'est passé exactement. On ne sait pas quels étaient les ancêtres, quels sont les descendants de quels ancêtres, à quelle époque ça s'est passé. Il faut faire une histoire. Et à la suite de Darwin, donc, les gens se sont mis à faire cette histoire, à commencer par Haeckel, qui faisait les arbres que Vincent vous a montré aussi il y a deux semaines. Et donc, ces arbres, ils permettent de représenter l'évolution, parce que dans la théorie de Darwin, les espèces se formaient à partir d'une espèce quand elles se séparaient en deux groupes, et puis ensuite chaque groupe évolue indépendamment, c'est ce qui permet d'avoir de la divergence et de la diversité. Et puis cette séparation en deux, ça va bien avec le développement d'un arbre, hein, parce que les branches se séparent en deux, et donc on peut faire de l'histoire du vivant en dessinant des arbres, et des arbres de plus en plus formalisés. Alors Haeckel dessiner vraiment des choses qui avaient l'air d'arbres, et puis finalement quand on formalise, ça devient des traits et des points, les points pour les ancêtres, et puis ce qu'on appelle des feuilles tout en haut, qui sont plus des feuilles, mais qui sont simplement les espèces qu'on met. Bon, on appelle toujours ça des arbres, ça devient un objet formel qu'on tire de cette représentation d'arbres. Aujourd'hui, on continue à faire de l'histoire du vivant en faisant des arbres, des arbres phylogénétiques. L'anomalie, ça serait quelque chose qui ne rentre pas dans ce cadre-là. Et on va parler d'une anomalie, et puis Vincent va développer ça un petit peu plus. Par exemple, c'est la découverte du transfert horizontal de gènes. Alors, je vous ai dit que les espèces peuvent évoluer avec un groupe qui se sépare en deux, et puis chaque groupe qui puisse se séparer en deux, et ça fait un arbre. Le transfert horizontal, c'est une espèce qui reçoit dans son matériel génétique des gènes qui viennent d'une autre espèce dont elle a déjà été différenciée. Bon, ils ont un ancêtre commun, mais qui peut être assez lointain. Et du coup, peut-être que ce phénomène peut apparaître comme une anomalie parce que s'il y a du transfert horizontal, on n'a plus cette image des espèces qui se séparent en deux et chacune qui se sépare en deux, mais il y a des interconnexions on va voir, peut-être ça peut faire penser que l'image d'un arbre est plus possible pour faire l'histoire du vivant. Suite aux anomalies, il y a des crises. La science normale, les anomalies et les crises, c'est le vocabulaire de Kuhn. Et les crises, c'est quand les gens se mettent à ne plus pouvoir faire de la science normale, c'est-à-dire de la science dans le cadre du paradigme, où ça marche plus. Alors, par exemple, je reviens à un autre exemple sur la physique. Juste avant la théorie de Newton sur la gravitation, la théorie courante, le paradigme dans l'astronomie, c'était un paradigme de Ptolémée qui plaçait c'est mes notes qui vont pas. Je voulais parler de la révolution copernicienne, pas la révolution de Newton. Donc la révolution copernicienne, c'est celle que vous connaissez sûrement et qui décentre la Terre du système solaire. Donc avant, justement, dans le système de Ptolémée, la Terre était au centre, tout le monde tournait autour, et cette théorie a connu des crises parce que tous les calculs qui étaient faits suivant la théorie de Ptolémée ne permettaient plus du tout de décrire, d'interpréter ce qu'on voyait dans le ciel. Alors, les gens, pour coller au paradigme de Ptolémée, essayaient de rajouter des choses de plus en plus compliquées dans la théorie, et c'est ça la période de crise. Donc ça fait l'occasion de parler d'une révolution scientifique peut-être la plus célèbre, qui est la révolution copernicienne, qui a renversé donc le paradigme de Ptolémée sur lequel les gens travaillaient, qui était quand même un paradigme qui appartient à l'histoire des sciences, et qui a été renversé par la révolution copernicienne. Pendant les crises, Kuhn raconte que il y a plusieurs théories, plusieurs variantes au paradigme qui commencent à voir le jour, que les gens se mettent à essayer des choses en dehors des paradigmes, que les chercheurs se mettent à être mécontents de leurs recherches, que assez souvent ils se mettent à faire de la philosophie. Il dit que c'est un symptôme de la crise, que au lieu de faire de la physique, les physiciens se mettent à faire de la philosophie, et c'est les signes d'une science qui sort de la science normale et qui attend un nouveau paradigme. Alors, et les nouveaux paradigmes arrivent avec des nouvelles théories qui provoquent ce qu'il appelle des révolutions scientifiques, donc en faisant explicitement l'analogie entre les révolutions scientifiques et les révolutions politiques. C'est pour ça qu'il appelle ça des révolutions. C'est-à-dire que ces révolutions provoquent des conflits. Il y a des guerres d'école entre les scientifiques. Il y a ceux qui sont attachés à l'ancien paradigme, ceux qui sont attachés au nouveau. Ceux qui sont attachés aussi à des paradigmes différents et qui ne survivront pas. Et des conflits et des changements d'institutions. Alors les changements d'institutions, c'est pour le côté politique, et puis il fait l'analogie entre les changements d'institutions et puis les changements des bases sur lesquelles vont travailler les scientifiques à partir du moment où il y a un nouveau paradigme. Alors, là où la théorie est assez intéressante, c'est que Kuhn pense que le changement de paradigme est destructif autant qu'il est constructif. C'est-à-dire, pour faire un nouveau paradigme et se remettre à faire de la science normale, il faut détruire l'ancien. Et c'est une partie assez controversée de sa théorie sur l'évolution de l'histoire des sciences, parce que on n'a pas l'habitude de voir les sciences comme de la destruction de savoir, on a toujours l'habitude de les voir comme une accumulation progressive de savoir. Là non. Quand il y a une révolution, on balaye tout un pan du savoir, tout ce qu'on croyait savoir n'est plus intégré au nouveau savoir, et on recommence sur des nouvelles bases. Il dit qu'il y a dans toutes les révolutions, il y a une destruction. Alors, c'est assez clair quand on passe du système de Ptolémée au système copernicien. C'est assez clair qu'on ne voit pas les mêmes choses. C'est un petit peu moins clair quand on passe, par exemple, lors d'une révolution scientifique célèbre et qui a un rapport avec la physique aussi, c'est la révolution d'Einstein, c'est-à-dire le passage de la mécanique newtonienne à la mécanique relativiste de Einstein. Ça, c'est quelque chose qui a l'habitude d'être représenté, décrit comme... Bon, la mécanique newtonienne, ça marche bien, c'est toujours enseigné, c'est toujours utilisé par certains ingénieurs, et Einstein rajoute quelque chose sur l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Alors, Kuhn raconte que c'est pas du tout vrai, ça, c'est pas du tout la bonne interprétation. Il pense que la mécanique newtonienne a été balayée complètement et remplacée par une mécanique de Einstein qui prend toute la place, et que l'interprétation de la mécanique newtonienne comme cas particulier de la mécanique d'Einstein, ça marche pas, c'est une réinterprétation a posteriori, que le fait que ce soit enseigné, c'est pas une preuve, parce que de toute façon plus personne ne travaille dans le paradigme de Newton, tout le monde maintenant travaille dans le paradigme d'Einstein, il n'y a plus aucune science qui se fait avec les outils de Newton. Ça a complètement changé d'outil. Il y a vraiment eu une destruction, même dans ce cas-là, qui est moins évident que les autres. Il dit aussi que le changement de paradigme provoque vraiment un changement dans la vision du monde des scientifiques, et puis si ça passe le monde scientifique dans la vision du monde que peut avoir tout le monde, en disant que on peut voir même avec une même observation voir quelque chose de complètement différent. C'est ce dessin qu'il donne pour expliquer son propos. Alors, on peut voir deux choses dans ce dessin. On peut faire un sondage pour savoir ce que vous avez vu en premier. Est-ce que vous avez vu un canard ou est-ce que vous avez vu un lapin? Alors, ça veut dire que avec une même image, on peut vraiment voir deux choses différentes, et que les paradigmes, c'est comme ça. Le monde reste le même, mais notre vision du monde a complètement changé. Avant, on voyait un canard, maintenant on voit un lapin, ou l'inverse. Et ça veut dire que la science ne se construit pas forcément à partir d'observations et de théories qui doivent coller aux observations. On recueille les observations, on fait une théorie et puis on teste la théorie en fonction des observations, mais ça peut être l'inverse. Il se peut que la théorie conditionne les observations. On voit les choses en fonction de la théorie qu'on a élaborée. Si pour une même image, on peut décider de voir un canard ou un lapin et il n'y a pas d'observation neutre, objective. On voit toujours avec des présupposés. Ça aussi, c'est une partie un petit peu controversée parce que on aime bien en science avoir des prétentions à la neutralité, à l'objectivité, à la production d'un savoir qui soit objectif, qui s'approche de la vérité, qui soit un dévoilement de la vérité. Là, ça écorne un petit peu cette image-là en disant d'abord, il y a des savoirs qui sont détruits. À chaque changement de théorie, on change de savoir et on change notre façon d'observer. C'est pas seulement les théories qui changent, c'est aussi les observations, les faits. Les faits peuvent changer eux-mêmes. Donc, c'est une critique qui a largement été véhiculé par les positivistes en science, qui eux tiennent à l'objectivité, qui ont pas envie de donner l'image d'une science qui est dont les savoirs peuvent être remis en cause du jour au lendemain, parce que on a envie d'avoir une certaine certitude quand on fait de la science, hein, on a envie de produire du savoir certain. Et là, ça ne va pas tellement avec cette vision-là de l'histoire des sciences. Et Kuhn finit par un petit chapitre sur le progrès dans les sciences. Du coup, puisque les sciences, selon lui, évoluent comme ça, avec de la destruction du savoir, avec des changements de vision du monde et des changements d'observation, qu'est-ce qu'on peut dire du progrès ? Est-ce qu'il y a quand même un progrès dans les sciences ? Alors, commence par dire, évidemment qu'il y a du progrès dans les sciences, le progrès est visible, il y a qu'à voir le progrès de la technologie, et c'est là qu'il commence à parler de biologie, tout juste à la fin de son livre. Est-ce qu'à la place du progrès, ce serait pas de l'évolution des sciences ? Et c'est là que ça va faire le lien aussi avec cette vision catastrophiste qu'on avait présentée à la première séance. On a déjà expliqué, mais je peux le refaire, la différence entre le progrès et l'évolution. Avant le paradigme darwinien, on avait tendance, même s'il y avait des visions évolutives, il y avait des théories de l'évolution, on avait tendance à voir l'évolution comme un progrès. C'est-à-dire, depuis l'ancêtre commun à toutes les espèces vivantes actuellement, qui était un micro-organisme, jusqu'à aujourd'hui où on a une grande diversité d'organismes les plus complexes, on a aussi tendance à voir un progrès. Et c'est ce progrès-là qu'on voyait au début du XIXe siècle, avant Darwin. Ce qu'a essayé de faire Darwin, et ce qui est peut-être pas encore tout à fait passé dans les mœurs, comme vous l'a expliqué Vincent la dernière fois, c'est de détruire cette vision progressiste, cette vision de l'évolution dans laquelle il y a quelque chose de linéaire, il y a un progrès continu depuis les micro-organismes jusqu'à les organismes complexes aujourd'hui, et puis d'habitude on met l'humain tout à la fin de la chaîne comme l'organisme le plus évolué. Il n'y a pas de progrès dans l'évolution. Il n'y a pas de finalisme. Il y a simplement de l'évolution, c'est-à-dire des essais de l'évolution, de la sélection des organismes qui sont bien adaptés à un moment donné. Et tout ça sans faire appel à ni de la complexification, ni du progrès, ni une échelle des êtres qui existent actuellement en disant ceux-là sont moins complexes, donc ils sont moins évolués, ceux-là sont plus complexes, donc ils sont plus évolués. Donc en se débarrassant de tout ça, on peut quand même faire l'histoire du vivant. Ça c'est en rapport avec le cours de Vincent la dernière fois, parce que sans tendance à la complexification, on voit apparaître quand même des organismes plus complexes que ce qu'il y avait simplement par diversification. Voilà, le processus c'est la diversification et pas la complexification. Et Kuhn dit, l'analogie est bonne avec l'histoire des sciences. Les sciences ne progressent pas, elles évoluent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de finalisme dans l'histoire des sciences. On ne peut pas faire de l'histoire en prenant les théories d'aujourd'hui et en disant les théories d'hier sont faites pour avancer vers les théories d'aujourd'hui, mais on fait de l'histoire en disant qu'il y a une diversification des théories scientifiques et de la sélection, de celles qui marchent bien. La sélection se passe quand les chercheurs décident de travailler avec les bases d'une certaine théorie. Et voilà, il fait explicitement l'analogie avec l'évolution darwinienne et la sélection naturelle. Ça ne veut pas dire que les théories du passé valent les théories d'aujourd'hui, parce que les théories d'aujourd'hui sont plus évoluées que les théories du passé, parce qu'elles ont eu plus de temps pour évoluer. Et c'est là qu'on pourrait retrouver le progrès. Mais il n'y a pas besoin de cette idée-là du progrès en disant il y a une accumulation progressive de, et puis on en sait de plus en plus pour interpréter l'histoire des sciences. Et c'est ce qui fait aussi le lien avec le tout premier cours qu'on avait fait sur le catastrophisme, parce que dans cette vision évolutive de l'histoire des sciences, il y a des catastrophes, puisque Kuhn fait avancer l'histoire des sciences avec des crises, des révolutions, et puis des périodes. Alors c'est quasiment une vision avec des équilibres ponctués de l'évolution, telle que la voyait Gould, par exemple. Voilà, alors, pour finir et pour dépasser dans le temps le livre de Kuhn, alors Kuhn a inventé les termes de révolution scientifique, de changement de paradigme, c'est des termes qui ont eu beaucoup de succès par la suite, un petit peu trop de succès même, parce que le changement de paradigme, c'est quelque chose qui est utilisé un petit peu partout, un petit peu n'importe comment, en marketing par exemple, on emploie changement de paradigme assez facilement pour désigner n'importe quelle nouveauté. Je peux vous donner quelques exemples là d'albums de musique qui s'appellent Changement de paradigme. Bon, c'est en anglais, hein, ça s'appelle Paradigm Shift, mais bon, il y a des jeux vidéo qui s'appellent comme ça, il y a des appareils de hi-fi qui s'appellent comme ça aussi. Ce succès du changement de paradigme, ça se voit en science aussi, parce que par exemple, en 2012, j'ai recensé 211 articles qui avaient dans leur titre une prétention à changer de paradigme. Alors, dans l'idée de Kuhn, les paradigmes, ça a changé. Il y en avait des changements de paradigme, il n'y en avait pas un par siècle. Il ne donne pas forcément d'indication sur ça, c'est-à-dire que la définition d'un paradigme, c'est vraiment quelqu'un qui donne une nouvelle théorie et qui est suivi par une école. Donc ça peut être aussi petit, ça peut être fréquent. Maintenant, 211 articles dans leur titre, et puis c'est sans compter évidemment tous ceux qui prétendent changer de paradigme mais qui ne l'ont pas mis dans le titre et qui prétendent changer de paradigme dans leur article. Il y en a peut-être 10 fois plus, ce qui fait qu'on change de paradigme en ce moment plusieurs fois par jour. c'est vous donner une idée de la vie qu'on mène. Voilà, ça c'est un exemple. Ah non, bon, il apparaît pas. Voilà, un exemple de parmi ces articles-là, c'est un changement de paradigme dans la conservation des poissons. Voilà, et puis il y en a plein comme ça. Et
conservation au sens biologie de la conservation.
Oui, voilà, au sens biologie de la conservation. Oui, c'est pas boîte de conserve. Hein, c'est... Voilà, il y en a peut-être là-dedans qui sont valables, et Vincent va en examiner un en particulier.
Donc, voilà, je vais essayer de voir avec vous rapidement où il en est ce shift de paradigme qui concerne la théorie de l'évolution. Alors, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, de telle découverte qui remet en question la théorie de l'évolution, et que évidemment c'est crucial et ça va changer absolument tout de la manière dont les scientifiques travaillent. Là, je vous ai mis un certain nombre de livres qu'on trouve assez facilement, qui ont eu un succès assez grand en fait, sur justement cette histoire de crise du darwinisme. Alors, ces articles qui sont là, ils ont en fait des connotations qui sont vraiment à la marge de la science en fait. C'est souvent avec des idées créationnistes que ces gens annoncent la fin du darwinisme. Mais en utilisant des arguments scientifiques, c'est-à-dire donc par exemple, enfin des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques. Donc c'est pas tellement cela que je vais détailler, mais voilà, on peut citer par exemple ce qui est souvent repris dans ces livres, c'est une chose dont on vous a parlé un petit peu dans les séances précédentes, cette opposition qui a existé à un moment donné entre les évolutionnistes qui était du gradualisme, d'une version où l'évolution procède vraiment par petits pas, et une idée selon laquelle l'évolution procède par sauts, donc le saltationnisme. Et ça c'est des idées qui sont très souvent discutées là, en disant bon, grosso modo, vous voyez, les évolutionnistes sont pas d'accord là-dessus. Du coup, ça veut dire que la théorie marche pas, et donc il faut changer de
paradigme.
Une autre chose qui est dans la boîte noire de Darwin, par exemple, et qui a beaucoup popularisé cette idée, c'est l'idée de complexité irréductible. Donc le grand exemple qui a marché pendant très longtemps, mais qui a maintenant des pendants au niveau moléculaire, mais c'est l'œil. Donc on dit voilà, l'œil c'est une structure qui est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse envisager qu'elle se fabrique par un processus évolutif, c'est-à-dire par petits ajouts de petites parties, et que finalement on obtienne un œil. Une moitié d'œil, ça sert à rien, donc on voit pas comment on pourrait avoir un intermédiaire entre pas d'œil et un œil parfaitement formé, et avec toute la... Donc ça, l'œil, ça a été réglé. On sait, on voit assez bien comment l'œil a évolué. Mais Michael Behe, là, qui est l'auteur de la boîte noire de Darwin, lui revient avec des exemples au niveau moléculaire. Donc par exemple, quelque chose de qui a été beaucoup discuté, c'est le flagelle des bactéries. Donc c'est si vous voulez un moteur moléculaire microscopique qui permet aux bactéries d'avancer. C'est une structure qui est très complexe, et dont Behe dit voilà, cette chose là ça a pas pu évoluer de manière gradualiste. Et donc, il faut que quelqu'un l'ait créé à un moment donné. Alors, effectivement, ce que font beaucoup ces gens-là dans ce type de livres, c'est remettre en question, c'est disons dire, la théorie n'explique pas ça. Moi, j'ai pas d'autre théorie à vous proposer, donc il faut. Enfin, j'ai une théorie à vous proposer qui est l'existence de Dieu, quoi. Mais j'ai pas vraiment de théorie scientifique à vous proposer. Donc, c'est vraiment une espèce de, comme disait Eric, de destruction, hein, un processus destructif, de dire, voilà, en fait, finalement, la théorie de l'évolution n'explique rien du tout. Si elle n'est pas capable d'expliquer ça, alors elle n'explique rien. Et donc il faut changer de paradigme. Et moi, je vous propose pas de paradigme, sauf que si on pouvait considérer que Dieu est à l'origine de tout ça, ça nous faciliterait très bien la vie. Je vous ai mis aussi un truc de John Stone, hein, qui est le seul français ici, que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais je pourrais peut-être vous en reparler. Mais c'était pas tellement de ça dont je voulais vous parler. En fait, je voulais vous parler de choses peut-être un petit peu plus sérieuses, parce que là, en fait, si vous voulez, les personnes dont je vous ai parlé un petit peu avant, c'est des gens qui sont un peu à la marge de la science. C'est-à-dire, en fait, ils travaillent. Certains sont des académiques, certains sont travaillent dans des universités, mais si vous voulez, c'est pas dans les articles scientifiques qu'ils vont aller parler de ça. Ils écrivent des livres. Ils écrivent des livres, et c'est dans ces livres que ça se passe, qu'ils proposent d'abandonner la théorie de l'évolution, mais c'est pas vraiment dans le cadre de la recherche scientifique. Et là, je voulais vous parler de deux personnes qui sont françaises et qui, eux, en fait, là, peuvent pas être accusés de pas être dans le cadre scientifique, parce que c'est des auteurs d'articles très reconnus, avec des noms très prestigieux. Et je vais vous parler assez brièvement des deux. Ici, là, sur la gauche, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent Le Point, moi pas, mais en tout cas, voilà, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui a une chronique dans Le Point, donc écrit toutes les semaines dans Le Point, et il a écrit un livre qui s'appelle « Dépasser Darwin ». Alors, c'est quelqu'un qui est très connu pour... en fait, c'est un médecin qui travaille sur des bactéries qui sont intéressantes du point de vue évolutif, parce que c'est des bactéries qui ont la propriété d'infecter leurs hôtes en rentrant à l'intérieur de leurs cellules. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes atteint d'une de ces maladies, c'est pas seulement que la bactérie vit à l'intérieur de votre corps, c'est qu'elle vit à l'intérieur des cellules de votre corps. C'est vraiment une association très intime avec l'hôte, et ça, vous allez voir un petit peu plus tard que c'est quelque chose d'assez important par rapport à ce qu'il propose. Donc, je vous ai mis une citation ici, que vous pouvez pas lire, mais que je vais vous lire, de la... Oups, j'aurais pas dû faire ça... d'une interview qu'on trouve de lui, là, il dit, le journaliste lui dit, d'après vous, il faudrait donc abattre l'arbre de Darwin. Il dit, l'arbre darwinien n'existe pas, c'est un fantasme. L'idée du tronc commun, avec les espèces qui divergent comme des branches, est un non-sens. Un arbre de la vie, pourquoi pas, mais alors planter la tête en bas, les racines en l'air, enfin moi, je sais pas, enfin, je comprends pas très bien ce qu'il veut dire par là, mais... Ce qu'il nous dit après, c'est que si les espèces étaient définitivement séparées il y a des millions d'années, il n'y aurait en fait plus d'espèces vivantes sur la planète. Chacune aurait dégénéré dans un coin, faute d'avoir pu suffisamment renouveler son patrimoine génétique. Pour survivre, il faut savoir s'encombrer de gènes inutiles, ne pas être économe. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire là, et je vais essayer de vous expliquer ça, et on va voir après... si effectivement vous pensez que c'est vraiment une remise en cause du paradigme Darwin. Alors de quoi il nous parle là? Donc effectivement, dans l'origine des espèces, il y a un arbre, et c'est cette figure-là, et c'est la seule figure de l'origine des espèces. Darwin ne s'est pas embêté à faire d'autres figures. Et il décrit, il présente cette figure-là, donc vous voyez qu'elle est très théorique, comme disait Eric, et elle vous représente en fait des lignées évolutives avec des ancêtres, donc le temps va du bas vers le haut, en fait c'est une analogie avec les strates géologiques, hein, le récent est en haut, l'ancien est en bas, et en fait ce que nous dit Darwin là, c'est ce qu'on peut voir dans les strates géologiques, ce sont des ancêtres, et puis on a des événements de divergence de temps en temps, des spéciations, on a des extinctions, et puis quand on arrive à l'actuel, on a la diversité actuelle, donc c'est ce schéma que nous propose Darwin, donc un schéma qui finalement aboutit à... lui fait dire que tout le vivant a un ancêtre commun, tout ce qui est vivant sur la planète partage un ancêtre commun. Ici, là, il y avait un ancêtre unique, et qu'il y a un processus de diversification qui explique la diversité actuelle. Et c'est le processus évolutif qu'il propose. Donc on voit effectivement que, selon le schéma, on a un ancêtre pour deux descendants, alors éventuellement plus de descendants, mais en tout cas, on réduit toujours le nombre d'ancêtres. Et voilà. Donc Eric vous disait, c'est Haeckel qui très très vite après Darwin a repris ça et a mis en pratique cette idée de reconstruire l'arbre du vivant. C'est lui qui a fabriqué les arbres du vivant. Je vous ai pas mis aujourd'hui d'arbre de vivant de Haeckel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré cet arbre il y a deux semaines. Et en fait, c'est un arbre qui date de 1967, qui est un arbre qui est très très ressemblant à l'arbre d'Haeckel, qui a vraiment quasiment pas de différence avec l'arbre d'Haeckel. Il y a des noms qui ont changé un petit peu, mais grosso modo, dans les années à la fin des années 60, on avait une vision du vivant qui était vraiment très proche de celle d'Haeckel. Donc typiquement dans l'idée d'une stase du paradigme, on en était là. Et à peu près à cette époque-là, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Peut-être que ça c'est un shift, mais c'est pas mon propos de défendre que c'est un shift. C'est que cette science de la reconstruction du vivant, de l'histoire du vivant, de la phylogénie, est devenue moléculaire. Donc à l'époque de Whittaker, la figure que je vous ai montrée avant, ce que faisait Whittaker, c'est il observait les organismes, y compris au microscope, et puis sur la base de leur ressemblance visuelle, il disait bah, ces deux-là se ressemblent, je vais les mettre ensemble, ces deux-là sont très divergents, je vais les mettre dans des parties différentes. Et puis, vers les années 50-60, on s'est rendu compte que la chose qui est transmise d'une génération à l'autre et qui permet de reconstruire un organisme complet, c'est de l'ADN. Donc ça, c'est une molécule d'ADN. Et donc, on en a beaucoup dans chacune de nos cellules, nous tous, et c'est ça la base de l'hérédité. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette molécule, c'est une molécule qui est fabriquée de petites briques, là, qui s'enchaînent, et qui, en fait, pour la simplicité, peuvent se représenter par quatre lettres différentes. En fait, il existe quatre briques différentes qui sont enchaînées dans un ordre bien précis et on les représente par quatre lettres qui sont A, C, G, T. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu ça. Donc dans l'ADN, on a les lettres ACGT. Ce qui s'est passé dans les années 70, c'est qu'on s'est rendu compte que si je prenais un gène humain, un gène de chimpanzé et un gène de macaque, eh bien je pouvais retrouver des séquences qui se ressemblent beaucoup, donc des suites de lettres qui se ressemblent beaucoup, parce qu'en fait, elles partagent un ancêtre commun, elles aussi, d'accord ? Donc, dans le génome, on a des kilomètres de ces lettres-là qui peuvent s'aligner de cette manière-là entre humains, chimpanzés et macaques, et puis de temps en temps, on voit des petites différences comme ça. Et donc, toutes ces petites différences-là, c'est des choses qu'on peut utiliser pour fabriquer un arbre, pour reconstruire des relations. Donc, si je partage la même lettre, je vous mets ensemble, si vous... etc. Et donc, on a pu utiliser cette information-là pour reconstruire un arbre du vivant. C'était en particulier très important parce que pour les microbes, pour lesquels on comprend bien que les caractères qui pouvaient permettre de les caractériser étaient vraiment très limités du point de vue morphologique, et bien là, on se retrouvait avec des tonnes d'informations, des tonnes de lettres, qui étaient informatives par rapport à leur ascendance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que l'arbre avait cette forme-là, donc il est complètement différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait, je vais vous le remontrer pour le plaisir, on a les plantes, les champignons et les animaux. Et puis en bas là on a les protistes, et puis en bas là on a ce qu'il appelle les monères avec les bactéries qui sont. Donc là vous avez une grosse partie de l'arbre qui représente en fait ce que vous voyez tous les jours, c'est-à-dire des plantes, des champignons et des animaux. Et en fait, quand on a été capable de reconstruire l'arbre sur des données moléculaires, on s'est rendu compte que ces choses-là, en fait, elles sont là. C'est-à-dire que là vous avez les animaux, les champignons et les plantes, c'est-à-dire que tout l'arbre de Whittaker, il est quasiment compris dans cette partie-là, et puis il existe une diversité qui était complètement insoupçonnée d'organismes microscopiques, dans lequel les gens qui ont fait ces premiers arbres se sont rendus compte qu'il existait deux grands groupes, groupes qu'ils ont appelés les bactéries et les archées. Bon, ça c'est un peu poser les bases pour pouvoir essayer de comprendre ce que nous dit Raoult. Je ne sais pas si jusqu'ici ça allait. Une chose qui est assez importante, ouais, bon voilà, c'est je pense que ce que veut dire Raoult, c'est déjà un petit peu ça. C'est-à-dire que ici vous avez une cellule animale, donc typiquement une de vos cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type d'image. On est constitué de milliards de ces cellules-là. Ça peut être des cellules de la peau, des cellules du foie, etc. Elles ont toutes, grosso modo, les mêmes éléments à l'intérieur. Et puis, il y a deux éléments qui sont très très importants. Il y a un élément, enfin ils sont tous très importants, mais il y en a deux dont je veux vous parler là. Il y a un élément qui s'appelle le noyau, qui contient en fait toute l'information génétique, ou quasiment toute l'information génétique que vous pouvez transmettre à vos descendants ou que vous avez reçu de vos parents. Et puis je vais vous parler d'une autre chose là, qui s'appelle la mitochondrie, donc qui est assez bien caractérisée du point de vue de sa fonction. On sait que c'est la petite usine qui permet de fabriquer de l'énergie pour le reste de la cellule en brûlant des sucres et en consommant de l'oxygène. Ce dont on s'est aperçu et dont on a reçu surtout la preuve de manière indiscutable quand on a commencé à faire de la phylogénie moléculaire, c'est que cette petite structure-là, donc la mitochondrie, qui est représentée ici, contient de l'ADN, contient elle aussi de l'information génétique, et que cette information génétique, si on essaye de la replacer dans l'arbre, si on la voit là, Si on essaie de la replacer dans l'arbre du vivant, eh bien, elle se situe là. C'est-à-dire que vous, vous êtes là, nous, on est là, je veux dire, on est des animaux, mais à l'intérieur de chacune de nos cellules, il existe une petite structure qui contient de l'ADN qui vient se placer ici dans l'arbre, dans cette petite partie très spécifique de l'arbre. Il se trouve que cette petite partie spécifique de l'arbre, c'est la partie que Raoult étudie de manière très poussée, parce que c'est là que se trouvent ces bactéries pathogènes qui sont capables de rentrer à l'intérieur des cellules. Et donc, la manière dont on explique la présence de cette structure, cette petite usine, la mitochondrie, à l'intérieur des cellules de caryotes, donc ou d'animaux, c'est ça, c'est comme ça, c'est-à-dire que ici vous avez une autre représentation de cet arbre avec les bactéries, les eucaryotes et les archées, et aujourd'hui, tout le monde en biologie accepte cette idée que à l'origine des eucaryotes, il y a eu un événement qu'on dit d'endosymbiose, donc de symbiose en fait, entre quelque chose qui était un proto-eucaryote pour être neutre sur les différentes hypothèses qui peuvent exister, et une alpha-protéobactérie. Donc en fait, les eucaryotes, et donc les champignons, les plantes, les animaux et nous, sommes en quelque sorte des chimères. À un moment donné, au cours de notre évolution, il y a eu une fusion entre deux organismes qui étaient apparentés, mais de manière très très distante, hein, ils étaient à deux endroits très très distants dans l'arbre. Ils se sont mis en symbiose, et voilà, nous sommes des organismes chimères. Alors, ça c'est une chose. Et puis on s'est rendu compte que, en fait, donc je vous ai dit, voilà, on aligne des lettres, on est capable de reconstruire des arbres. Si je prends une région du génome ou que j'en prends une autre, eh bien j'obtiens des arbres différents. J'obtiens des arbres différents et, donc par exemple ça, cet arbre-là, je l'ai fait avec une région du génome. Et si je prends une autre région du génome, je vais obtenir un arbre comme ça, donc peu importe les noms. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a du noir, du vert et du bleu, et que là, j'ai du noir au milieu du bleu, et puis j'ai du vert au milieu du noir. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on fait de la phylogénie moléculaire à grande échelle, c'est que il existe des transferts horizontaux de gènes, c'est ce dont vous parlait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire que les organismes, au cours de leur évolution, échangent des gènes, y compris avec des organismes qui sont très distants. Alors, c'est un phénomène qu'on essaye de caractériser, donc on essaye de quantifier l'impact. On se rend compte que c'est un phénomène qui est relativement rare au cours de l'évolution, mais cumulé sur des milliards d'années, ça commence à faire pas mal de ces événements de transfert horizontaux. Et donc, voilà, ici je vous ai mis une citation d'une des personnes qui est très très importante dans ce domaine, qui nous dit que, voilà, les phylogénéticiens moléculaires cherchent l'arbre du vivant, et en fait, ils ne trouveront jamais, et la raison pour laquelle ils ne trouveront jamais, c'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire, parce que leurs méthodes sont inadéquates, mais c'est parce qu'en fait, il est incorrect d'essayer de représenter l'arbre du vivant sous la forme, l'histoire du vivant sous la forme d'un arbre. Donc la ligne de pensée là, c'est donc, voilà, à un moment donné, Darwin a dit tous les êtres vivants ont un ancêtre commun, le mécanisme qui explique leur diversité, c'est la descendance avec modification. Juste, je vous rappelle qu'à l'époque, Darwin n'avait aucune idée de ce qu'était le mécanisme d'hérédité. À un moment donné, la génétique est venue s'ajouter à ça et dire que ce qui est transmis d'une génération à l'autre de manière verticale, c'est ce qui se trouve sur les chromosomes, sur les gènes, sur l'ADN, si vous voulez. Et puis, à ce moment-là, on a choisi l'ADN comme outil pour reconstruire les liens entre espèces. Et donc, on a commencé à faire de la phylogénie moléculaire. On a comparé les séquences de gènes et on s'est rendu compte que les gènes pouvaient parfois être transmis horizontalement. Donc, je vous ai parlé de symbiose, je vous ai parlé de transferts horizontaux de gènes seuls. Et que cumulés sur des milliards d'années d'évolution, ces événements finissent par être nombreux. Et donc, ce que dit Raoult, c'est Darwin s'est trompé. C'est-à-dire que il nous disait, il nous disait, je vous le relis, l'arbre darwinien n'existe pas, c'est un fantasme. Donc ce qu'il dit, c'est il faut échanger des gènes. Chacune aurait dégénéré dans son coin faute d'avoir pu suffisamment renouveler son patrimoine génétique pour survivre. Son patrimoine génétique. Donc cette... Donc la question c'est que je vous soumets, hein, c'est est-ce que on est dans un shift de paradigme. Alors par rapport à ce que disait Eric tout à l'heure, il y a un certain nombre de symptômes qui pourraient le laisser croire, notamment il y a beaucoup de philosophie qui est publiée à propos de ça. En fait, on est un peu débordé par des articles qui sont pas vraiment des articles scientifiques, essayent un peu de blabla sur le concept du transfert horizontal, d'hérédité, d'organisme, etc. Moi, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que finalement, par rapport à l'idée de Darwin, il s'est passé pas mal de choses et entre-temps, et notamment, il y a un moment où on a décidé d'utiliser les gènes comme des outils, en fait, comme des marqueurs de l'évolution des espèces. Et en faisant ça, on s'exposait au fait que, éventuellement, cet outil, hein, qu'on allait choisir pour retracer l'évolution des espèces, n'était pas adéquat pour sa fonction, pour la fonction qu'on lui prêtait. Donc le transfert horizontal est bien réel, mais est-ce que l'existence du transfert horizontal remet en cause cette idée que, d'abord, les êtres vivants ont un ancêtre commun, et que, essentiellement, ce qui se passe au cours de l'évolution, c'est des organismes qui se trouvent isolés et se diversifient de cette manière-là. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas l'outil qui nous induit éventuellement, qui nous met éventuellement dans l'erreur ? Mais à mon avis, cette question n'est pas tranchée. On est en plein là-dedans et on est en plein dans cet éventuel changement de paradigme si il doit se passer. Voilà, j'ai déjà été un peu long là-dessus. Je voudrais juste parler d'autre chose qui est... un autre point d'attaque de la théorie actuelle de l'évolution, qui est donc il y a cette histoire d'arbre, et puis il y a la génétique dans la théorie actuelle de l'évolution, et donc il y a ce monsieur là qui s'appelle Étienne Danchin, qui a publié récemment un article, et puis qui était interviewé ici dans le blog du Monde, passeur de science. Et où il dit que la théorie de l'évolution doit faire sa révolution. Donc il veut aussi qu'on fasse un chiffre. Donc le journaliste lui dit, vous avez secoué le cocotier du monde de l'évolution en disant qu'il devait faire sa révolution. Pourquoi ? Il dit parce qu'il y a urgence à sortir du cadre dans lequel on s'est enfermé. Ces cadres, on en a besoin, il faut les construire, mais il arrive un moment où il faut aussi les dépasser. C'est souvent le travail des scientifiques que d'aller au-delà de leur référentiel habituel. Je fais souvent la comparaison avec l'astrophysique. Quand Einstein a proposé la théorie de la relativité pour décrire la gravité, il n'a pas dit que Newton avait tort, il a dit que Newton ne décrivait qu'un cas particulier et que la relativité expliquait des phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer auparavant, comme certaines anomalies de la trajectoire de Mercure entre le Soleil. Avec mes co-auteurs, nous disons la même chose pour l'évolution. Donc il se pose en Einstein de la théorie de l'évolution et il nous dit, j'arrive avec une nouvelle théorie de l'évolution. Alors en fait, c'est pas tellement vrai, parce que ce qu'il fait essentiellement, c'est pointer du doigt ce qu'il considère être un défaut de la théorie de l'évolution actuelle. Et donc ça c'est une autre partie de l'article où il dit il existe d'autres formes d'hérédité qu'il est urgent d'intégrer dans une théorie de l'évolution plus générale. Le journaliste lui dit quelles sont ces autres formes. En plus de la génétique, donc effectivement la théorie de l'évolution considère la génétique comme le mécanisme principal d'hérédité, on en distingue trois, l'hérédité épigénétique, culturelle et environnementale. Alors, donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est en fait la génétique ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est considérer aussi dans la théorie de l'évolution ce qui est épigénétique au sens large, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du génétique. Et bon, là il introduit une distinction qui n'est pas forcément très utile, mais disons que dans l'épigénétique on peut mettre donc quelque chose qui concerne plus spécifiquement le moléculaire, dont je ne veux pas vous parler, mais la culture et l'environnement. Alors bon, ça c'est un petit peu étrange de dire ça, parce que finalement il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur l'évolution des comportements, notamment sur l'évolution de la culture, et pas du point de vue génétique, c'est-à-dire qui ont réfléchi à des modèles d'évolution de la culture, et en particulier, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a commencé dans les années 70, mais la théorie des mèmes, Richard Dawkins, quand il a vulgarisé, disons, de manière très très efficace, la théorie néo-darwinienne en écrivant le livre qui s'appelle Le gène égoïste, dans Le gène égoïste, il écrit un chapitre dans lequel il dit, en fait, effectivement, on peut tout expliquer par la transmission des gènes et ce mécanisme très simple du darwinisme qui est que si je me reproduis mieux, eh bien, c'est finalement moi qui vais finir par être plus présent dans les populations futures. Et donc, au cours de l'évolution, finalement, la seule chose qui compte, c'est si les gènes se reproduisent ou pas. Si un gène se reproduit, si le caractère qu'il porte lui permet de se reproduire, à ce moment-là, il va finir par s'imposer et par être partout dans la population, et donc par faire partie du patrimoine de l'espèce, du patrimoine génétique de l'espèce. Et il dit, de la même manière, on peut voir les idées. Donc ce qu'il appelle les mèmes, c'est des idées qui évoluent, qui se répliquent. Donc le concept du gène égoïste, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, c'est... l'idée, c'est il existe des unités qui se reproduisent, dont la seule fin est de se reproduire. D'accord ? Et ces unités, elles peuvent avoir des propriétés. Et donc, typiquement, quand c'est des gènes, elles peuvent conférer aux individus qui les portent des propriétés. Et donc, si elles confèrent aux individus qui les portent des propriétés, eh bien, ces propriétés peuvent éventuellement leur permettre de mieux se reproduire. D'accord ? Si vous êtes fit, si vous êtes bien adapté à votre milieu, vous allez mieux vous reproduire. Donc le gène, cette petite unité dont vous êtes composé, vous en avez plein, tous ces gènes coopèrent en fait. Ce qui est important de comprendre dans l'idée du gène égoïste, c'est que par l'égoïsme des gènes, on explique l'altruisme des structures supérieures, c'est-à-dire que les gènes, parce qu'ils cherchent à se reproduire, coopèrent entre eux pour mieux se reproduire. D'accord ? Donc, au sein, c'est pour ça qu'ils fabriquent des individus. Ils fabriquent des individus parce que, en coopérant, ils se reproduisent. D'accord ? C'est ça l'idée du gène égoïste. Et donc, à la fin du livre, il dit on peut tout à fait appliquer ça à l'histoire des idées. Et dire que les idées, c'est les idées qui se répliquent, c'est-à-dire que je vous dis quelque chose, vous allez le recopier dans votre tête, puis vous allez le retransmettre, et si cette idée est une idée qui a un succès pour une raison ou une autre, dont vous vous rappelez bien et que vous avez envie de le raconter à quelqu'un d'autre, eh bien c'est une idée qui va avoir du succès et qui va finir par s'imposer. Et donc il propose donc ce modèle complètement darwinien, d'évolution des idées. Et alors donc c'est tout à fait analogue au gène parce que les idées peuvent muter. Vous pouvez très bien l'avoir mal comprise et puis ou y ajouter votre petit détail à vous qui fait que voilà elle va avoir changé, donc elle mute, ces idées elles mutent et elles se propagent, et parfois elles s'éteignent, parfois elles se répandent, et il y a des idées qui sont très populaires et d'autres qui Donc, on dirait qu'il redécouvre un petit peu quelque chose qui a beaucoup traîné dans la théorie de l'évolution, surtout depuis les années 70, et puis qu'il a l'air de nous dire, ça je viens de le découvrir, et c'est très très important de le prendre en compte. L'idée que ça c'est vraiment un changement de, ça nécessite un changement de paradigme, c'est vraiment à discuter. Voilà. Bon, c'était. Donc je vais terminer là-dessus. Donc en fait, conclure quand même. Si vous voulez, ces deux personnes là, ce qu'elles font beaucoup, c'est finalement sortir de la sphère scientifique pour venir clamer qu'elles ont une proposition à faire sur un changement de paradigme en évolution. En fait, c'en est pas vraiment un parce que c'est des choses dont on sait qu'elles existent dans le champ scientifique, mais ils se proclament un peu comme des parents d'un changement de paradigme. Moi il me semble que c'est assez difficile de voir ça comme des révolutions parce que finalement c'est des idées qui sont très très bien acceptées dans le champ scientifique, et donc c'est un peu compliqué de les voir comme des vrais shifts. Voilà.